Donc, un psaume qui va vous paraître très étrange. Dans l'Ancien Testament, on trouve beaucoup de choses qui parfois ne sont pas tout à fait la même chose que ce qui sort de la bouche de Jésus. On va essayer d'approfondir cela pour que vous compreniez parfois comment il faut lire l'Ancien Testament. Dieu de ma louange, ne te tais point. Ce n'est pas que cet homme dit, donne un ordre à Dieu. Il sait que Dieu peut se taire, se décider à se taire, et laisser le croyant dans un profond silence, et le laisser seul dans l'épreuve, où il sait que Dieu peut lui parler dans l'épreuve, et que ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui décide de parler, de consoler, de restaurer, d'édifier, de protéger. Psaume 109, verset 2, « Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse, ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. » Rappelez-vous que Jésus, c'était le cas. Ils me font la guerre sans cause et ils vous feront la guerre sans cause. Il a dit à ses disciples. Ils m'ont haï, ils vous haïront sans cause. Le disciple n'est pas plus que le maître. Ils me font la guerre sans cause, parce qu'ils aiment ça. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Voilà donc un croyant sincère et profond dans l'Ancien Testament qui porte de l'amour à ses ennemis. On va voir si ça va durer. Ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière, il se met devant Dieu, il se positionne devant Dieu pour que Dieu intervienne. Parce qu'il sait que son amour à lui ne change pas le cœur de l'ennemi. Il m'est déjà arrivé, même dans l'église, d'avoir des personnes qui étaient ici et qui me haïssaient, ça durait des années, et tout l'amour qu'on leur a apporté n'a pas changé un millimètre du cœur de ces personnes. Mais cette personne ou ces personnes venaient au culte, amenaient un très mauvais esprit dans l'église et étaient remplies de haine. Je le savais par les enfants qui me disaient le dimanche est la journée la plus noire de la semaine parce que dans la voiture on entend notre Père vomir sur tous les chrétiens et sur toi en me parlant. Par la suite, ça s'est développé en rentrant et en sortant, en faisant du bruit, en allant sur le portable, etc. Jusqu'au jour où j'ai dû intervenir devant tout le monde. Parce que l'amour n'avait rien changé, mais c'était le devoir. L'amour devait être la première règle pour nous. Parce que l'amour n'avait rien changé, pourtant il aurait pu changer quelque chose si le cœur était ouvert. Mais son cœur ne voulait pas s'ouvrir à l'amour, il était ouvert à la haine, et pratiquement, il fallait l'intervention de Dieu après. Automatiquement, il faut demander à Dieu, avec autorité, d'intervenir. Et c'est cela qui se produit ici. Je vais prendre le cas, il y a eu beaucoup de réfugiés à Virton, dans le centre des réfugiés, et dans tous les réfugiés qui sont venus ici, il y en a eu des, peut-être une centaine, qui sont venus au culte. Il y avait une dame que certains ont connue, Astérie, qui venait du Rwanda et qui avait perdu dans les carnages, 9 personnes de sa famille. Et qui a été en justice par la suite pour obtenir une réparation et surtout pour que la justice prononce quelque chose sur ses fautifs. Et au tribunal où elle était là, le tribunal a absous les assassins. Il a balayé, il a lavé tout ça. Cette femme, cette chrétienne est sortie elle avait une voiture, pas forcément la sienne, parce que, mais enfin, elle avait une voiture, elle est repartie, elle avait 200 km à faire. Et les assassins n'avaient pas de voiture. Elle les a pris en voiture pour les rentrer et les déposer dans leur maison chez eux. Et elle les a invités au culte à l'église. Et ils sont venus au culte assis tout près d'elle. Ici, donc, nous voyons qu'il y a l'amour et il y a la force de l'amour. La force de l'amour, c'est Christ. La force qui renouvelle l'amour, la force qui renouvelle le pardon, la force qui demande à Dieu d'intervenir et de changer l'ennemi, c'est Christ. Ce n'était pas elle. Et quand elle est arrivée ici, en Belgique, elle avait 3 maladies graves. Une maladie qui court énormément en Afrique, surtout à cause des viols militaires, des viols faits exprès, la tuberculose, et aussi la septicémie. Dans sa foi, dans la prière, dans sa chambre, et ici, le samedi soir, lorsqu'on priait, et qu'on a fait l'onction d'huile et prié, après 2 ans, les maladies étaient parties. Puisque son cœur était rempli de Christ, son corps pouvait être touché aussi par Christ. Et ces maladies pouvaient être portées par Christ. Christ a porté nos meurtrissures, a porté nos souffrances dans Ésaïe 53 et dans la première épître de Pierre. Et pratiquement, cette chrétienne a vu que Christ avait porté ses maladies et aussi ses souffrances. La conformité à Jésus-Christ est la vocation du chrétien. Le chrétien dans les pantoufles, qui ne peut pas prier pour son ennemi. Le chrétien dans les pantoufles qui ne recourt pas à la prière. Le chrétien qui ne subit pas l'épreuve et qui ne la veut pas, ne ressemble pas à Jésus et n'est pas conforme à Jésus-Christ. Pierre dit dans son épître que l'Esprit de gloire, l'Esprit Saint, est sur ceux qui souffrent pour Christ. Dans l'Ancien Testament, au psaume 109, bien sûr, le Saint-Esprit n'est pas donné par le sang de Christ. Le sacrifice de Jésus à la croix n'a pas encore eu lieu, donc il ne peut pas être donné. Mais l'Esprit Saint a déjà montré à ce croyant le chemin qu'il fallait prendre pour ressembler au Dieu miséricordieux de la Bible. Vous savez que dans Deutéronome, chapitre 3, chapitre 8, verset 3, il est mis « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. » Et vous savez que dans Lévitique, au chapitre 6, verset 5, il est mis « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà donc un vrai croyant comme l'Ancien Testament pouvait en produire. Il portait un nom, les Anawim, c'est-à-dire les pauvres de Dieu, tellement pauvres que Dieu les remplissait. Psaume 109, verset 5, « Ils me rendent le mal pour le bien, et ils me rendent de la haine pour mon amour. » C'est comme la situation de Jésus-Christ. Alors, au verset 6, place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Puisque cet homme n'a pas l'autorité de Dieu en lui, hein, ceux qui accusent, qui font du mal à ce croyant, eh bien, qu'un méchant prenne autorité sur lui. Et effectivement, c'est ce qui arrive souvent, quelqu'un de méchant trouve plus méchant que lui. Quelqu'un de méchant, de tordu, trouve plus tordu que lui et finit par s'empêtrer à se compliquer la vie dans l'horreur de son péché. au verset 7, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Donc, cette personne mauvaise qui est méchante et qui fait du mal, peut-être même plusieurs, sont des croyants. Sa prière passe pour un péché. C'est des gens qui vont peut-être à l'église, en tout cas à cette époque, au temple. C'est des gens qui sont là et qui pensent être sauvés, qui s'approchent de Dieu sans que le cœur soit brisé, humilié, sans que le péché les dérange. L'histoire des religions, y compris la religion chrétienne, est remplie de cas pareils. Je lisais cette nuit un rapport d'un pasteur sur l'Ukraine, la partie du Donbass, la partie qui est envahie par les Russes, et on y voyait les soldats qui rentraient dans les familles évangéliques. Les Russes rentraient dans les familles évangéliques, les viraient des maisons, cassaient tout, etc., chassaient les évangéliques, en disant « il n'y aura plus de chrétiens évangéliques dans le Donbass ». Pourquoi ? Parce qu'ils sont orthodoxes. Ils vont aller dans l'église, chanter, faire Pâques et Noël, l'épiphanie. Ils vont faire pour les morts dans le cimetière, ils vont faire les rites pour les morts. Ils sont religieux et ils haïssent celui qui est à Christ. Je lisais ça cette nuit, je n'ai pas fait exprès. Eh bien, je pense à ça. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. J'étais une fois à la gare de Marbehan et j'avais déposé quelqu'un et j'allais redémarrer. J'avais ma voiture avec un poisson, donc pour certains, ils comprennent que c'est des évangéliques ou parfois des catholiques charismatiques, peu importe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y avait un bonhomme avec sa valise, un monsieur bien mis d'un certain âge, qui était là et qui n'avait pas de bus. Parce que les bus, souvent en Belgique, le train est en retard, le bus n'attend pas. Hop. Il y avait 2 minutes à attendre, le bus n'a pas attendu. Parce que le chauffeur a quelque chose de dur là-dedans. Hein? Alors, il a tellement quelque chose de dur qu'il y a des gens qui restent sur le quai de la gare, ils espéraient trouver le bus est parti. Parfois, il est au bout de la rue en train de partir. Et ce bonhomme, je dis, vous voulez monter ? Il monte. C'était un professeur de psychologie et de sociologie de l'université de Libre de Bruxelles. Une grosse tête. Et il allait faire une session de plusieurs jours à Etal pour former des gens dans la sociologie et la psychologie pour des éducateurs. Alors il était dans la voiture, il me dit, j'ai vu votre petit poisson. Moi, j'ai travaillé au Burundi pendant des années, à une époque où il y avait beaucoup de chrétiens évangéliques. Et il m'a dit, moi, je suis athée, monsieur, mais j'ai vu qu'on les avait tous massacrés. On venait pendant la nuit les prendre et on ne les retrouvait plus jamais. Ils étaient massacrés. Et je peux vous dire, moi, athée, je trouvais ces gens remarquables, d'une grande valeur morale et spirituelle. Et il n'y en a plus maintenant dans ce pays-là. Étonnez-vous que dans ce pays, il ne pleut plus actuellement. Il n'y a plus de pluie qui tombe. La malédiction de Zacharie chapitre 14. La malédiction là, avec Acab et Jézabel sous Élie. On ne rit pas toujours de Dieu. Un jour, on tremble. Parce que Dieu a aussi des rétributions pour les méchants. Et c'est ça que je vois dans ce psaume, c'est que cet homme sait que Dieu rétribuera le méchant. C'est pour ça qu'il dit au verset 1, Dieu de ma louange, Dieu que j'aime, Dieu que j'adore, Dieu que j'invoque, que je respecte, que je crains, ne te tais point. C'est-à-dire, ne laisse pas les méchants régner. Je sais qu'en ton temps, tu vas les rétribuer, tu vas les sanctionner. Même si je ne le vois pas, ça arrivera un jour. C'est le sens de la justice divine. Eh bien, regardez au verset 7, quand on le jugera qu'il soit déclaré coupable, que sa prière passe pour un péché, évidemment, pour une imposture, une iniquité, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Je me suis amusé, c'est pas un plaisir, hein, amusé c'est plutôt, j'ai pensé à une famille où les parents étaient croyants, et sur 5 enfants, il y a une personne qui est croyante, dans les enfants. Ceux qui n'ont pas cru, et ceux qui se sont moqués de Dieu, sont tous morts. La personne qui est croyante vit toujours. J'ai fait la moyenne d'âge de tous ceux qui sont décédés, c'est 63 ans, les 4. Je suis certain que s'ils avaient aimé Dieu, ils arrivaient à une moyenne de 78 ans, ou 75 ou 80 ans. J'en suis certain. Je suis dans le cas de ma génération. Beaucoup de gens que j'ai connus, qui se sont moqués de Dieu, j'étais dans une école laïque, sont déjà morts. Au moins 2 sur 3. J'ai peut-être des épreuves. J'ai peut-être eu des moments difficiles et j'en aurai encore. Mais vous savez très bien que dans les psaumes, Dieu a dit que le juste vacille, mais ne tombe pas. Mais le méchant tombe. Il faut ouvrir les yeux sur la réalité. Craindre Dieu, l'aimer et le servir est un chemin. Pas toujours de bénédiction, mais le chemin de la justice et de la vérité, où Dieu nous garde. Les bénédictions, on n'en a pas toujours toutes celles qu'on voulait. On n'aura pas toutes les facilités. Il y aura des épreuves qui seront des bénédictions. Des épreuves qui deviennent des bénédictions. Oui, dans ce sens-là, il y en a beaucoup. Parce qu'on progresse dans la relation avec Dieu, dans la confiance et la foi envers Dieu. Et on progresse dans la connaissance de Dieu. Alors, c'est un sujet très spécial qui est ici, après dans les versets, dont je voudrais parler par la suite. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Donc, il avait une responsabilité, peut-être dans une synagogue, dans un temple, dans quelque chose d'important au niveau de la société, mais qu'il soit démis. Que ses enfants deviennent orphelins, sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds, qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Ce verset 9 et ce verset 10, on ne peut jamais les entendre dans la bouche d'un chrétien. Il s'agit d'une malédiction. Vous savez bien ce que Jésus a dit ? Bénissez, ne maudissez pas. Mais dans l'Ancien Testament, l'homme, tout comme chez les juifs orthodoxes actuellement, qui sont sans Christ, tout comme chez les musulmans et dans beaucoup d'autres religions, l'ennemi, on le maudit. Avec autorité. Et croyez-vous que la malédiction est du vent ? Pas du tout. Elle a de la portée. Parce que Satan y contribue. Satan s'empare des malédictions. Et il y exprime sa gloire. Et celui qui a maudit va devenir un serviteur de Satan, alors qu'il aimait Dieu. Quand j'ai fait les études de prêtre, un vieux prêtre en qui j'avais confiance, qui écoutait beaucoup de gens, qui faisait beaucoup de cures d'âme, m'a dit, Jean, quand tu seras prêtre, ne maudis jamais aucune famille et aucun village où tu travailleras. Mais je vois aussi dans les psaumes, par exemple, que Moïse, son cœur s'est aigri, il eut des paroles amères sur le peuple que Dieu lui avait confié, et Dieu empêcha Moïse de passer le Jourdain et de rentrer en Canaan. Il le fit mourir sur le mont Nebo. Dieu n'approuve pas la malédiction. Dieu n'approuve pas l'amertume. Dieu n'approuve pas la rancœur. Ici, nous voyons que ce croyant, parce qu'il souffre, dérape dans quelque chose que Dieu n'a pas demandé. C'est un psaume extrêmement humain, extrêmement profond. Et je vais vous parler de cas concrets après. Regardez au verset 11. « Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, que les étrangers pillent le fruit de son travail, faillite, saisie, immobilière, etc. Hein? Que nul ne conserve pour lui de l'affection, que personne n'ait pitié de ses orphelins. Donc, qu'il soit dans l'horreur, la solitude, la détresse, l'angoisse. » Et croyez-vous que ça n'arrive pas? Il y a des malédictions dans notre société qui apportent ces mots-là. Et les psychologues et les médecins ne peuvent pas résoudre ça. Beaucoup de psychiatres deviennent malades, alcooliques et suicidaires, puisqu'ils se heurtent à des choses qui sont de véritables malédictions. La seule possibilité devant ces malédictions, c'est le jeûne et la prière. Jésus l'a dit clairement. Ce genre de démon ne s'en va que par le jeûne et la prière. Pour briser ces malédictions. Et là, j'ajoute la parole de Dieu. Ici, nous voyons quand même que quelqu'un qui est croyant peut tomber dans quelque chose qui n'honore pas Dieu. Et lui, il pense que c'est légitime. Quand vous prenez le psaume 139, il est formidable, sauf deux, trois versets à la fin. Parce que Dieu, mon Dieu, je te loue, je suis une créature merveilleuse à tes yeux. Tu connaissais tous les jours qui m'étaient donnés. Tu connaissais toutes mes pensées, toutes mes paroles qui allaient sortir sur ma bouche. Tu me connaissais dans le ventre de ma mère, quand j'étais masse encore informe, donc avant 9 semaines. Quelle science formidable, Seigneur. Où fuirais-je loin de toi? À l'Orient, à l'Occident, en haut, en bas? Mais tu es là. Tu me tiens dans ta main. Tu mets ta main sur moi, devant, par derrière. Nous voyons dans ce psaume une action de grâce et une reconnaissance de la providence divine. Et puis, juste à la fin, il y a des malédictions sur ceux qui sont méchants. Ça, c'est la situation de quelqu'un qui n'a pas entendu Jésus encore. C'est la situation de quelqu'un qui n'a pas déposé son péché à la croix. C'est quelque chose qui arrive chez le croyant s'il n'est pas passé par le sang de l'agneau à Golgotha. Tout croyant peut devenir un tordu, un ennemi de Dieu, parce qu'il suit ses sentiments et ses ressentiments. Mais à partir du moment où il sait qu'à la croix, Jésus-Christ a porté son péché, qu'il a accepté que Jésus a porté son péché et est mort pour lui, il doit admettre que son péché était crucifié. Et comme dit Paul, qui est un assassin religieux, Paul a dit, Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voilà le vrai tournant dans l'histoire spirituelle des hommes. C'est que la foi, la relation à Dieu, n'est pas construite sur les sentiments, sur la bonne volonté. Elle ne suffit pas pour être saint et pour être comme Jésus-Christ, comme le Fils de Dieu. La foi a besoin d'être purifiée par le sang de Jésus, de tous ses péchés. Et de la racine du péché. Donc ce psaume, c'est un appel au salut de Christ. Alors, je continue la lecture du psaume. Regardez à quel point c'est une horreur que ses descendants soient exterminés, que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Rappelez-vous, quand Saül est tué, hein, se suicide, Jonathan meurt, les trois fils meurent, il y a des descendants. La règle, c'était qu'il ne devait pas rester un seul descendant. Si David devenait roi et qu'il avait des descendants, il ne fallait pas qu'il en reste un de l'autre chez Saül. mais il y a quelqu'un qui a sauvé un enfant, qui a couru, et puis qui a trébuché. L'enfant a eu les jambes cassées, c'est Mephibosheth. Mephibosheth a été caché. Il a été caché, c'était un enfant de Jonathan. Et il devait être exterminé, il ne fallait plus qu'il reste des descendants de Saül pour qu'il n'y ait personne qui revienne combattre les descendants de David. C'est des règles comme ça qui existent en Israël et qui existent encore autre part, un peu partout. Et regardez, Dieu a poussé David à rechercher Mephibosheth et à le mettre à sa table tous les jours qu'il ait à manger. Un descendant de son ennemi était à sa table. Parce qu'il aimait Jonathan. Jonathan était un ami sincère. Et puisque Jonathan était mort, il reportait cet amour sur cet enfant handicapé, Mephibosheth. Là, nous voyons une exception. David a fait une exception à une coutume sanguinaire et cruelle, sans pitié et sans miséricorde, sur les ennemis. Donc il est clair que la religion ne change pas le cœur. Même le cœur le mieux disposé n'est pas changé par lui-même. Il faudra attendre Golgotha et l'agneau qui ôte le péché du monde, comme a dit Jean-Baptiste. Alors, dans le psaume 109, verset 15, je vais commencer au verset 14, « Que l'iniquité de sa père reste en souvenir devant l'Éternel, que le péché de sa mère ne soit point effacé. » Il demande même à Dieu d'inscrire une rancune éternelle sur cet homme, qu'il ne fasse aucune pitié. Verset 15, « Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel, qu'il retranche de la terre leur mémoire. » Il demande même que tous les descendants soient maudits. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux, l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Vous voyez ce croyant? Il voit vraiment ce qu'il y a dans l'œil de l'autre, la paille, mais il ne voit pas la poutre. Il ne voit pas qu'il est comme ça aussi. Le fait qu'il demande ça à Dieu, mais il est aussi pire que son ennemi. C'est pour ça que Jésus a dit... Si tu vois la paille dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qui est dans ton œil. Jésus interdit ce type d'attitude. Et dans Romains chapitre 2, qui es-tu toi qui juges autrui et qui fais la même chose? Ne crains-tu pas Dieu? Pourquoi méprises-tu tes trésors de bonté, de bienveillance de Dieu à l'égard des pécheurs? Ici, nous voyons que cet homme est en train, se croyant, eh bien, cherche une vengeance. Une vengeance bénie. Vengeance bénie. Alors que Jésus, dans Matthieu, chapitre 5 et 6, dit, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, si on te frappe sur la joue droite, une gauche, tends la joue droite. Si ton ennemi te demande de faire 100 mètres, fais-en 200. Et qu'est-ce que dit Jésus dans le Notre Père? Pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Donc, nous voyons que Jésus refuse cette attitude. Alors, au verset 17... Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas dans la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, etc. Vous voyez? Je n'achève pas la lecture de psaume, mais regardez bien à quel point toute religion basée sur la chair ne sert à rien. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Et ça permet de comprendre, les amis, pourquoi il y a des affirmations qui paraissent tellement mystérieuses, mais elles ne sont pas mystérieuses. Elles sont très réalistes. dans Jean, chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que j'ai dites sont esprit et vie. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Regardez. Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Qu'est-ce qui est donné par le Père? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est donné par le Père? Le pardon des péchés, la régénération, le renouvellement de l'âme et du cœur, le brisement du péché. Si cela n'a pas été donné par le Père, cet homme religieux ira en enfer. Avec toutes ses prières et tous ses salam alek, toutes ses bénédictions et ses malédictions. Nous allons prendre un autre texte dans Jean. C'est pour que vous compreniez que Jésus aimait les Juifs. Il aimait les gens qu'il rencontrait. Mais ce qu'il y avait en eux, il le dénonçait. Alors, Jean chapitre 3, il dit ceci à Nicodème, hein, Jean chapitre 3, verset 3, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est quoi le royaume de Dieu? Dans Romains 14, 17, Paul dit ceci, le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger ni le boire. C'est paix, justice et amour selon le Saint-Esprit. Alors regardez, ici, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3. En plus loin, verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a deux mondes différents. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. Ce n'est pas une option, c'est un ordre, une obligation. Si tu veux rentrer dans la vie éternelle, tu dois naître à nouveau. Alors, à la Samaritaine, au chapitre 4, Samaritaine, chapitre 4, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit à Samaritaine? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Imaginez. Vous voyez à quel point Jésus peut dire quelque chose à un homme, même qui fait des belles prières. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alors, allons un peu plus loin. Verset 23, l'heure vient, elle est déjà venue, forcément puisque Jésus est là, le Messie, le Rédempteur est là, donc les temps sont changés, c'est une nouvelle heure sur la terre, un nouveau temps, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Avez-vous l'heure?
Midi.
Bien sûr, je voudrais expliquer quelque chose de concret. Je vous ai donné la doctrine, mais des choses concrètes. Dans toutes les personnes qui passent ici, ou que je rencontre autre part, il y a souvent des gros, gros problèmes. Parfois, c'est dû au péché personnel de la personne. Parfois, c'est dû à des malédictions reçues, même que la personne ignore. Que la personne ignore. Il y a plein de situations différentes au niveau spirituel. Donc, je reçois le vendredi matin quelqu'un ici, là, qui a fait les arts martiaux et qui était très puissant dans les arts martiaux, qui faisait de la télépathie, qui avait une force mentale sur les autres et qui pouvait allonger des tas de gens sans avoir le moindre bobo. Même des costauds étaient allongés. C'est un homme redoutable. Il est venu à de nombreuses fois à des conférences publiques que j'ai faites et je me suis dit, mais ça n'en servait à rien. Je pensais que ça ne servait à rien. Il n'a jamais changé. Il vient me rendre visite et puis il parle que de choses, je me dis, qui ne servent à rien. Puis, quelque part, je me dis, Seigneur, tu as été patient avec moi, je serai patient avec lui. Et en étant patient, eh bien, quand il arrive, là maintenant, ça se dévoile. Il sait que le jugement de Dieu sur les nations, sur ce monde, est pour bientôt. Il le voit, toutes sortes de signes. Et il me l'a dit. Les temps vont changer, Dieu va intervenir. Je le vois bien. Pourtant, c'est un homme redoutable et ce n'est pas un craintif. Ce n'est pas un craintif. Je ne peux pas dire que c'est un trouillard. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des névroses, des peurs, en regardant la télévision, etc. Non. Il analyse les choses et il dit, il y a quelque chose, tout est en train de changer, on est à un tournant. Alors je lui ai pris des textes, j'ai lu des textes de la Bible, et je dis, vous voyez, ça correspond à ce que vous avez dans la conscience. Est-ce que vous voulez revenir chaque vendredi matin pour en connaître plus sur le Seigneur Jésus et sur le Sauveur? Il va revenir. Voilà un cas. Maintenant, un autre homme du même âge, musulman, pratiquant, de caractère assez fort, qui a logé ici pendant un an et demi comme réfugié, et qui habite dans une grande ville en Belgique, et qui prend sa voiture, alors qu'il est âgé, il prend sa voiture et il vient ici. Il loge parfois. Il m'a dit, « Pasteur, j'ai des rêves, et je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer. » Il y a deux personnes qui veulent diriger le monde, dans mes rêves. Et je ne sais pas, je ne comprends pas dans mes rêves qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut penser. Et comment est-ce que c'est? Comment ça va se passer? Je suis venu à Gomory pour que vous m'expliquiez. J'ai dit, il y en a un qui va dominer sur le monde, qui va séduire, qui va paraître bon, et puis qui va faire un mal fou à ce monde. Et les hommes qui ne connaissent pas Dieu ne vont se laisser séduire et vont être entraînés à leur perte avec lui. C'est ce qu'on appelle l'antichrist. Et l'autre, alors qu'il me dit, l'autre, c'est le Christ, le Fils de Dieu vivant, qui va venir établir son règne de paix et de justice. Mais il va trier les brebis et les boucs, le blé est livré. Ah, enfin, je comprends. Parce que c'est un rêve, c'est, pour moi c'est comme un cauchemar, ça revient tout le temps. Pasteur, est-ce que vous pouvez m'expliquer tout ça encore? Est-ce que je peux venir? Revenir? Cet homme était ingénieur, avait une grosse entreprise. C'est un homme de caractère. Quand il me dit, je vais dans la mosquée, je ne m'intéresse pas. Parce qu'ils sont là pour faire de la politique, ils n'aiment pas Dieu. Moi je voudrais bien Dieu. Je lui dis, Mohamed, je vais peut-être vous blesser, mais je connais Dieu. Vous, vous l'aimez, mais vous ne le connaissez pas. Il baisse la tête, tout triste, il dit, je m'en doutais. Vous, vous connaissez Dieu, vous avez de la chance, qu'il me dit. Alors, je lui dis, Mohamed, il faut que vous lisiez les évangiles et que vous appreniez à découvrir Jésus. et vous connaîtrez le vrai Dieu. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait? J'ai été en visite chez lui et il y avait un homme de son âge qui arrivait. Ah, c'est mon ami, il a aussi des rêves. Il voudrait bien que vous lui expliquiez. Et oui, c'est comme Joseph quand il était en Égypte. Moi, souvent, c'est des choses pareilles qui m'arrivent. Et cet homme, il dit, dans toutes les nuits, je vois quelqu'un qui passe, qui a des grands cheveux, une grande robe, qui passe avec une charrette, et qui passe devant moi, et tout doucement, il avance, et je sais que c'est Jésus. Mais il dit, pourquoi est-ce que dans mes rêves, toujours Jésus passe? Il dit, vous ne pourriez pas m'expliquer, pasteur? Je ne parle ni de mosquée, ni de musulmans, ni de christianisme, rien du tout. Je ne tombe pas dans tout ça, ça ne sert à rien. Je dis, il attend que vous montiez sur la charrette. N'attendez pas trop tard, parce qu'il ne passera plus à un moment donné. C'est tout ce que j'ai dit. Pas plus. À travers. Si je fais du baratin plus, tout est noyé. Il est devant sa responsabilité. Combien de fois je suis plongé dans des situations pareilles? Combien de fois? Alors, le cas d'une famille où on faisait de la sorcellerie, énormément de sorcellerie, et le père se déguisait en femme, il sortait habillé en femme. Il faisait le clown au carnaval, à différentes fêtes. Il s'habillait, il faisait rire tout le monde. Mais en fait, il était possédé. Et en fait, sa femme était possédée aussi. Et les enfants étaient terriblement opprimés, dominés, écrasés. Et ce fils a rencontré, est devenu hippie, les grands cheveux. Il vivait comme clochard, il a fait ça pendant 15 ans. Et, pensez au psaume, que ses fils soient vagabonds, etc. Cet homme qui jetait des sorts et cette femme avaient beaucoup d'ennemis. Et dans cette Bretagne, si on fait du mal, les autres jettent des sorts aussi. Ils vont à la messe, ils mettent des bougies, ils vont voir tel saint, et jettent des sorts aussi. C'est soi-disant de la religion chrétienne, mais ce n'est que de la religion du diable. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le fils avait une malédiction. Il était vagabond, il était perdu, errant, comme dans le psaume. Il était l'objet d'une malédiction de la part de quelqu'un qui avait souffert des folies et des sorcelleries des parents. Il était en dépression, il a fumé le cannabis, il a pris l'héroïne et tout ça, il a circulé, et un jour, il découvre un chrétien et l'évangile. Quand il devient chrétien, il ne pouvait plus dormir. Il croit en Christ, il accepte Christ, il ne pouvait plus dormir, même pas 5 minutes. Je l'ai rencontré et j'ai prié pour lui. J'ai dit, mais je vais prier pour toi, pour que tu puisses dormir. Eh bien, pendant 2-3 semaines, c'est moi qui n'ai pas dormi. Et je sais pourquoi. Parce qu'avec moi, il n'y avait pas une église pour prier avec moi, dans cette affaire-là. J'étais tout seul pour prier contre une malédiction qui était très puissante. Il n'y avait pas une église qui priait avec moi pour ce cas-là. C'est pour ça que je dis, l'église est un corps. C'est le corps de Christ. Il doit être uni dans la prière, uni dans la bataille. Car Satan aime les chrétiens divisés. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais si les chrétiens sont unis spirituellement, ils obéissent à Christ et à sa parole, tous ensemble. Ils sont une force irrésistible pour Satan qui ne peut pas vaincre. Alors une église, c'est vraiment le corps de Christ. Si l'église n'est pas unie dans la prière et le jeûne, et dans la prière, dans la foi, elle n'est pas l'église. Elle n'est pas le corps de Christ. Et donc elle ne peut pas prier contre l'ennemi. Eh bien, cet homme a été libéré et n'était plus, et tout en étant chrétien, a pu dormir, a quitté le vagabondage quand il a lu le psaume 109. Il lisait sa Bible, Et en lisant le psaume 109, il a vu la malédiction, que ses fils sont vagabonds et puis faillite, etc. Pensez dans de certaines familles où il y a des faillites, il y a des problèmes d'argent tout le temps, il y a des problèmes d'adultère, d'impureté. Pensez à tout ça. Il y a quelque chose derrière tout ça. Une église a une autorité si elle est unie dans la prière et la foi et l'obéissance. Contre toutes ces choses-là, elle a une puissance contre le royaume des ténèbres. Si elle n'est pas unie, si elle ne fait pas un corps priant et souffrant, en Christ, Satan est le maître de toutes choses. Un chrétien tout seul, jamais Dieu, jamais Jésus n'a voulu ça. L'orteil ne peut pas se séparer de l'oreille. L'œil ne peut pas se séparer du pied. Le rein ne peut pas travailler sans le foie. Le cœur ne peut pas travailler sans la rate et le pancréas. Et il faut avoir une vision d'église unie, forte dans la prière et l'intercession. Devant un ennemi si fort, il n'y a que Christ au sein de l'église qui a l'autorité sur l'ennemi. Eh bien, cet homme, actuellement, est chrétien. Et c'est cet homme chez qui je vais faire une retraite de 10 jours avec des familles, de 8 jours, où il y a de la place pour 8 à 10 personnes. Il offre le logement, la nourriture pendant 8 jours à toutes ces personnes. C'est quelqu'un qui est généreux, qui aime le Christ, qui aime le Seigneur. Et pratiquement, il sert Christ à sa façon. Mais la parole de Dieu, en lisant le psaume 109, lui a fait comprendre qu'il avait été victime d'une malédiction. Et il s'est retourné vers Christ, en demandant à Christ d'arrêter cette malédiction. S'il ne l'avait pas fait, il serait aujourd'hui en psychiatrie, à vie. Si un jeune homme décide tout d'un coup de ne pas travailler, de vivre n'importe comment, de partir à l'aventure. Nous avons eu le cas avec un de nos fils, et ça arrive dans d'autres familles, ou une jeune fille, de partir à l'aventure, et de ne pas avoir une vie stable, de ne pas faire de projet de couple, de ne pas faire un projet de famille, de ne pas faire un projet de travail pour rendre des services à la société. Parce qu'on ne travaille pas rien pour son salaire, on travaille pour construire la société. Parce que les autres ont besoin de notre travail. Nous roulons sur une route. Nous avons un meuble. C'est fait par des menuisiers. La route, c'est fait par des gens qui travaillent à tous les temps dehors. Nous avons tous besoin les uns des autres. Celui qui fait les ponts rend service à tout le monde, même s'il ne comprend pas. Il n'est pas là que pour son salaire. Il est là pour les autres. Eh bien, le jeune homme qui ne comprend pas ça, qui vit comme un vagabond, qui erre, n'y a-t-il pas une malédiction derrière lui ? Qui vient d'un grand-père, d'une grand-mère, d'une trahison de Dieu. N'y a-t-il pas quelque chose à régler ? Il n'y a que Christ qui peut le régler. Il n'y a que Christ qui peut ouvrir la voie à ce jeune homme pour avoir une vie normale. Je pourrais prendre des dizaines de cas que j'ai rencontrés. Il n'y a que Christ qui a autorité pour remettre quelqu'un sur un chemin normal, valide, sain. Notre maison ici a accueilli beaucoup de personnes qui étaient confuses, sans boussole, dépourvues de toute paix. Des SDF belges, des SDF français, des réfugiés de l'Afrique, des réfugiés de l'Est. Et forcément, beaucoup sont venus au culte, à l'église, entendu la parole de Dieu. Comment les comprendre si on ne prie pas? Comment les comprendre si on ne lit pas la Bible? Comment comprendre si, entre chrétiens, on ne s'unit pas dans la prière? Comment peut-on apporter quelque chose à ces personnes si on n'est pas unis dans l'intercession, dans l'adoration? C'est pour ça que moi, j'ai à cœur ce projet de la maison de prière à quelques kilomètres, que ça continue. Ce projet, c'est un projet de Dieu pour restaurer des hommes perdus. Ce n'est pas le fait d'avoir une maison. C'est le fait que des âmes soient restaurées, soient sauvées. Mais quel drame se passe-t-il dans la vie de la plupart des personnes aujourd'hui? Y a-t-il un rapport entre la vie de quelqu'un que je vois et des malédictions reçues? Un jour, on m'appelle pour un monsieur, un jeune homme, qui s'était jeté de 15 mètres de l'hôpital. 15 mètres! Il y avait tellement plu, il avait loupé le trottoir, vous voyez le trottoir, il avait tellement couru sur le toit, il est tombé dans l'herbe, il était planté comme un poireau, un pied cassé. On me téléphone, un athée me téléphone à 7h du matin. J'ai pensé à toi, tu ne pourrais pas aller le voir, il est complètement fou, il veut recommencer. Quand j'étais le voir, j'ai pris un psaume, d'abord me mettre à genoux dans la chambre. Seigneur, je ne veux pas y aller tout seul. Seigneur, si tu vas là-bas, Seigneur, si tu veux intervenir, je te fais confiance, je te le demande, Seigneur. Moi, je ne peux rien faire. Je suis arrivé là-bas, il était lié, il y avait des clés, des barreaux aux fenêtres, et pratiquement, 2 jours après, il sortait. Et le psychiatre l'a donné juste un tout petit cachet pour dormir un peu. Ce bonhomme n'a jamais refait de tentative de suicide. Mais qu'est-ce que j'ai analysé? J'ai visité la famille. Ils avaient reçu la malédiction d'un prêtre. Il y avait plusieurs cas de malédiction dans la famille où les hommes pétaient les plombs continuellement. Pourquoi? Parce que la grand-mère, étant jeune avec des copines, une fois au soir, avait crié au viol et avait laissé croire que le curé voulait les violer. Et c'était faux. Ce curé avait été limogé, placé autre part, et il les avait maudits. En rencontrant cette affaire-là, j'ai compris pourquoi mon professeur de vie spirituelle au séminaire m'avait dit « Jean, quand tu seras prêtre, ne maudis pas une famille ni un village. » Quelqu'un qui aime Dieu, qui est religieux, peut devenir un travailleur ou Satan. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, qui comprend la doctrine de l'Évangile, ne peut pas devenir un ouvrier de Satan. Mais un homme religieux, bien disposé, un prêtre, un moine, peut devenir un ouvrier de Satan. Les plus grands livres de sorcellerie viennent du Moyen-Âge et écrits par des moines. Staline, qui a fait souffrir l'Ukraine, qui a fait souffrir tous les l'URSS, a fait les études de Pope en Géorgie. Un homme religieux est quelqu'un qui peut être ambivalent, double. Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est né en Christ, sous le sang de l'agneau, n'est pas double. Il est purifié, il n'est plus souillé. L'autorité de Christ, c'est ça que Paul dit dans Colossiens, que Christ, par son sang, nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé, de son amour. Et c'est en cela que nous avons besoin de la nouvelle naissance. Nous avons besoin d'être quelqu'un d'autre, que toutes les traces d'Adam soient disparues, et de Satan, et du péché, et du monde soient disparues. Que par Christ, nous ressemblions à Christ. Que par Christ, par le Saint-Esprit, nous allions toujours vers Dieu. Nous sommes scellés, unis à Dieu, par le Saint-Esprit. C'est ça le défi de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça le salut du monde. À Dieu la religion. Et vive Jésus-Christ. Vive le règne de Jésus-Christ dans son Saint-Esprit. Romains 14, 17. Le royaume de Dieu n'est ni le manger ni le boire, mais est paix, justice et amour selon le Saint-Esprit. Je vous invite, quand vous avez peut-être des problèmes, je ne peux pas tout dans une prédication expliquer. Quand vous avez des questions, moi je suis ici à la maison. Mon portefeuille est trop plat que pour faire des trajets en voiture partout chez tout le monde. Trop plat. Mais ça peut arriver que j'aille chez l'un ou l'autre de temps en temps. Mais courir et courir, c'est impossible. Je suis dépassé par ce budget qui est trop court. Mais ce qu'il y a, je suis ici, et mon budget au niveau spirituel, le voilà. Il n'est pas trop court. Il n'est pas trop court. Et si vous voulez, on peut passer des heures à approfondir les choses. Le budget spirituel, je ne le crains pas. Il est rempli. Mais ce qu'il y a, sachez bien que quand je serai enterré, vous viendrez trouver un cercueil ou une tombe. Non. Il faut préparer dans l'église des relèves. Il faut préparer des gens qui servent Dieu, qui prient, qui lisent la Bible, qui apprennent à connaître les choses de la vie spirituelle pour que le ministère continue. Alors, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers et des ouvrières. Et c'est peut-être vous. Ne tournez pas la tête de à gauche, à droite en disant « c'est pas moi, c'est peut-être chacun de nous ». Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père chéri, Père du ciel et de la terre, tu nous as mis au monde pour t'aimer, pour t'adorer. Tu nous as mis au monde pour être à toi, pour être ta louange vivante jour et nuit. Seigneur Père chéri, tu nous as mis au monde pour être de ta famille, pour être sous le sang de Jésus, pour être dans le Saint-Esprit, pour te servir, pour être ta gloire sur cette terre, pour être la lumière des nations avec toi, pour être le sel de la terre, pour être la bougie, la lumière sur le chandelier. Seigneur, nous avons un privilège énorme. Aide-nous à prendre ce privilège, Seigneur, à nous rendre compte que nous sommes chéris par toi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre l'élection que tu as posée sur nous. Aide-nous à comprendre l'amour de Jésus à la croix pour nous. Aide-nous à comprendre l'amour de Jésus tous les jours, jour et nuit sur nous. Aide-nous à comprendre la force et la sainteté de ton Saint-Esprit qui veut nous attacher à toi et qui est plus fort que nos péchés, que nos faiblesses. Oui, Seigneur, dans notre faiblesse, nous crions à toi. Dans notre faiblesse, nous te glorifions. Dans notre faiblesse, ta grâce nous suffit, Seigneur. Tes compassions nous suffisent. Au nom de Jésus, Amen. Si quelqu'un veut prier ou chanter...